fascinant de voir aussi, bon, il y a l'historique, il y a l'évolution, mais ce qui m'intrigue le plus, c'est la question pastorale, je pense, que j'ai regardé aussi autour de moi vers la fin de la présentation. Et j'aimerais vous demander comment, en fait, finalement, vous entrez dans un lien pastoral, dans une relation pastorale avec des... Bah alors, parce que là, du coup, on sort complètement du contexte d'une paroisse. Ça peut être dans une paroisse, ça peut être des paroissiens qui participent, mais vu que l'activité même se fait peut-être avec des, vous l'avez dit, des Coréens, des Brésiliens, des Sud-Africains, comment est-ce qu'on, tout en jouant, parce que là, c'est le défi, vous jouez, mais alors, j'imagine qu'il existe des communautés de partage, des chats, des... voilà, je voulais juste peut-être développer un peu plus la réalité du terrain pastoral autour de l'e-sport tel que vous l'avez présenté ce soir. Merci.
Alors, c'est une excellente question. Alors, c'est assez délicat parce que c'est nouveau. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je considère qu'on est en train de chercher un terrain où planter des graines. Donc, c'est très compliqué quand on est face à des gens qui réclament de manger des fruits, alors que pour l'instant, on découvre les lieux, tout simplement. Je crois vraiment qu'on est, je dis pas qu'on est en retard, hein, mais simplement comme on s'est jamais trop penché en Église sur cette question, on en est vraiment à la stade de la découverte. Sur le plan pastoral, c'est pas tout de suite qu'on va profiter des fruits. Faut déjà chercher où planter nos graines. Je parle donc volontiers de pastorale passive. Vous voyez, c'est-à-dire que ben Monsieur le curé est là, présent dans une convention, tiens, il s'inscrit à un tournoi, tiens, il finit second, voilà, sur le podium. Voilà, donc ça pose question. Les gens viennent me voir, mais vous êtes prêtre, oui. Du coup, là, il y a plein de choses qui se passent. Et très vite, j'ai des gens qui me disent, bah oui, bah tiens, ça me fait penser, j'aimerais bien baptiser mes enfants, mais maintenant ils ont grandi, comment ça marche, comment on fait? Et ça vient tout seul, en fait. La simple présence, le simple fait d'être avec les gens, de jouer avec eux, d'être à leur contact, dans une proximité très simple, en fait, ça amène des choses. Ça amène aussi beaucoup de questions, parce que les gamers jouent beaucoup à des jeux où on trouve plein d'éléments religieux. Je pense à la figure du prêtre, les anges, les démons, tout ça, ce sont des choses qu'on voit énormément. Hein, les chamans, les sorciers, les magiciens, comment on fait le tri là-dedans. Voilà, donc il y a plein de questions qui viennent là-dessus aussi. Donc c'est vraiment du tout venant. Voilà, c'est un peu un lieu de découverte. On y va, on va voir un peu ce qui se passe. La deuxième chose intéressante aussi, c'est que ça réinterroge notre question de la proximité. Parce qu'effectivement, je parlais de la proximité dans des conventions, là ça va, c'est assez facile. Mais alors, je pense au temps du Covid, où là, vous imaginez bien, j'ai passé beaucoup plus de temps à des jeux vidéo que ce qu'on a l'habitude de faire. Et je me suis comme ça rapproché de pas mal de gens et je me suis rendu compte que ben, on peut pas les approcher autrement que par le biais des écrans. Donc effectivement, il y a un changement du concept même de proximité, hein, par la révolution numérique, tout simplement. Voilà, effectivement, je peux me sentir plus proche de quelqu'un très éloigné géographiquement parlant, mais je crois que la proximité n'est plus que géographique. Elle est très thématique. Et effectivement, grâce à la révolution numérique, grâce aux nouveaux moyens de communication, réseaux sociaux, tout ça. Alors, j'en ai pas parlé, c'est un autre sujet, ça serait vraiment trop long à l'ouvrir, mais tout ça, ça rentre, hein. C'est un tout. Bah oui, pensez à la proximité autrement. Voilà. Donc oui, je suis très proche de gens que je n'ai jamais vus. Ça ressemble un petit peu, j'aime bien donner cet exemple-là, à ce qui se faisait auparavant dans les siècles derniers quand on disait les amitiés de plus. Voilà, mon grand-père avait un très bon ami qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il n'a fait que correspondre avec lui. Il y a toute une correspondance énorme. Voilà, ça prend beaucoup de place d'ailleurs. Et il y a vraiment là. C'était une vraie amitié, je pense. Il y avait une vraie amitié, une vraie proximité, mais qui n'était pas géographique. Ce phénomène s'est vraiment déployé par la révolution numérique. Et je termine en disant qu'il y a aussi un certain nombre de personnes, principalement des jeunes et des ados, qui se confient beaucoup plus facilement par le biais d'un écran. Quand je les vois, ils parlent très peu. Voilà, ils sont assez introvertis, assez timides. Par contre, quand je discute, c'est aussi un élément que j'ai constaté. Voilà, donc pouvoir justement échanger avec des jeunes, peut-être aussi des moins jeunes, hein, mais moi, avec des jeunes, parce que comme ils ont tous mes coordonnées, et mes coordonnées ludiques, on va dire ça comme ça, hein, mon tag, mon battle tag, tout ça, donc on se retrouve sur les jeux, et là ils causent, et là ils disent beaucoup de choses. Voilà, donc il y a vraiment, je le disais, hein, cette question de la proximité qui change, et ça change aussi la pastorale. Voilà, mais je le redis, hein, pour moi c'est vraiment c'est un début, on va voir où ça nous mène. J'aime beaucoup notre pape qui dit, bah, essayez, il vaut mieux une église qui fasse des erreurs qu'une église qui bouge pas.
Oui, merci beaucoup Bertrand pour votre présentation. Je trouve ça hyper intéressant parce que très perturbant. Et donc forcément, nous, en tant que chrétiens, on doit s'occuper de ces choses-là. Et donc je me dis qu'il doit certainement y avoir une manière chrétienne de jouer, une manière chrétienne d'utiliser les réseaux sociaux, une manière chrétienne de... J'ai trouvé aussi déstabilisant la question du sport, e-sport, est-ce que c'est un sport? Et en effet, je pense qu'il n'y a pas forcément de... Quoi, s'il y a débat, mais c'est assez maintenant clairement fixé, l'e-sport est un sport. Mais par contre, c'est pas une activité physique. Alors que jusque-là, on se posait pas la question, le sport, il y a forcément de l'activité physique. Alors que là, ouais, on rentre dans quelque chose qui peut être du sport sans activité physique. C'est ça qui est déstabilisant. Mais l'activité physique, comme elle est définie par en fait la quantité de mouvement et le métabolisme qui est associé, voilà. Par contre, il n'y a pas. Après, avec ce que vous disiez sur peut-être l'utilisation de casque ou de choses comme ça, ou de mouvement, on pourrait peut-être, mais c'était pas le but du jeu au départ, quoi. C'est plutôt l'interaction avec les autres, ainsi de suite. Merci. Voilà.
Je précise à propos de l'activité physique que l'activité cérébrale est intense.
Oui, mais c'est une quantité de mouvement. C'est-à-dire qu'on la mesure en quantité de mouvement. De métabolisme.
Mais voilà, le cerveau, enfin, ça c'est pareil, quand on arrive à un certain niveau de compétition, bien sûr, hein, c'est un peu comme tout, mais le cerveau humain fait partie du corps, en tout cas c'est comme ça que les choses sont présentées aujourd'hui, le cerveau humain fait partie du corps, et il y a énormément de choses qui se passent au niveau du cerveau, il y a une vraie énergie qui est dépensée lors des grands tournois et des grandes compétitions de jeux vidéo.
Oui, oui,
ça,
mais
je l'ai remarqué aussi.
Oui, mais voilà. Sur le sport, vous êtes revenu là-dessus, c'est OK. Sur l'activité physique, non, parce que c'est un nombre de mouvements par minute.
Oui.
C'est une fréquence de mouvement. Et après, peut-être que la définition changera. Pourquoi pas? Et en effet, avec ce genre de choses, on peut avancer par rapport à...
Là, je le redis bien, c'est une question ouverte.
Oui, oui.
Là, aujourd'hui, effectivement, pour moi, c'est plus un constat. Hein. L'e-sport est considéré comme un sport, mais je pense que la question, déjà, reste ouverte, et elle doit rester ouverte,
oui.
Elle doit rester en débat, comme je le disais, pour la simple et bonne raison que ça interroge le rapport au corps. Et je vais même rajouter ça, bah, quand on est chrétien, on croit en l'incarnation, voilà, il y a toute cette question-là aussi derrière. Les changements de paradigme, hein, pour le dire comme ça, au niveau du corps, ça doit nous interroger, ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous aider aussi à avancer et à prendre conscience des questions qui touchent le monde actuel. Voilà, aujourd'hui, je prends un jeune collégien, lycéen, 12 ans, 15 ans, 18 ans, toutes ces questions-là, ils vivent avec en permanence. Et ça leur colle même, parfois, souvent, une vraie pression. Voilà, ils doivent arriver à vivre avec ça. Et donc, ça rend les choses assez complexes. Maintenant, pour reprendre la question très bonne, hein, de quelle est la manière chrétienne de jouer à des jeux vidéo, là, j'ai envie de dire que pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Je pars du principe, comme je le disais, qu'on n'en est qu'au début. On en est à chercher des espaces de dialogue, parce que pour l'instant, l'Église ne s'occupe pas trop de cette question-là. Donc, on en est vraiment à chercher des espaces de dialogue entre l'Église et jeux vidéo. Quand on aura avancé, peut-être qu'on pourra discerner, qu'on aura des éléments pour comprendre, pour discerner la question de jouer de manière chrétienne ou des jeux vidéo chrétiens. Là, en ce moment, je suis un cycle de cours à Paris. Je voudrais bien travailler cette question-là, cette question du jeu vidéo et de l'Église aujourd'hui. Mais comme tout est à faire, hein, je vous disais, c'est un continent entier avec des tas de richesses, mais aussi, on le sait bien, des tas de questions, voire des tas de dangers. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent un petit peu pour baliser le terrain. Voilà, j'en viens là, c'est J'ai 20 ans de scoutisme, donc c'est le travail du scout, hein, voilà, d'explorer, de regarder un petit peu et de dire bah, voilà où on en est. Et voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Bah, c'est pas le scout tout seul qui a exploré, qui va tout faire. Voilà. Mais pour l'instant, je crois vraiment qu'on en est au début. Et en même temps, c'est ça qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Voilà. Il y a ce côté très captivant de se dire il y a tout à faire dans ce monde-là. Voilà. Un nouveau continent à évangéliser.
Bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et il n'y a pas longtemps, on m'a proposé un livre à éditer, parce que je suis aussi éditeur, sur l'Église 2.0. Donc il y a tout un travail qui a commencé à être fait aussi sur l'Église en ligne. C'est vrai que le temps du Covid a été propice pour ça, et où là, on rejoint effectivement les questions pastorales et l'accompagnement de gens qui sont à l'autre bout du monde et qui sont en demande quelque part, ou qu'on atteint, qu'on a évangélisé, qu'on a je ne sais quoi, et qui sont là en questionnement et qu'il nous faut accompagner. Alors bon, moi j'ai eu fait des saintes scènes en ligne, bien sûr, hein, pourquoi pas quoi, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est toute une culture à développer, à mettre en place et à réfléchir. Que ferait Jésus à ma place?
Alors ça, je crois que c'est la bonne question, et en même temps avoir une réponse nette et tranchée, ce serait un peu dangereux. Donc je reste sur quelque chose de très ouvert, en disant ben oui, on a tout un tas de choses qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. Voilà, pour l'instant, alors, tout ce qui est communication, je trouve que l'Église avance bien. Hein, la question des réseaux sociaux, on a dit beaucoup de choses. Voilà, la question de tout ce qui est Église en ligne, toutes nos paroisses ont un site, on a tous des responsables de communication un peu partout. Là-dessus, je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Alors, évidemment, ça pourrait toujours être mieux. Hein. Okay, mais je pense que là, on n'est pas trop mauvais. Le monde des jeux vidéo, là, par contre, il n'y a pas grand-chose encore pour l'instant, parce que c'est vraiment autre chose. Voilà, souvent je dis, hein, on a tendance à faire un peu l'amalgame dès que c'est derrière un écran. Entre les jeux vidéo et les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une part de réseau dans le jeu vidéo, puisqu'on joue en ligne, à plusieurs, mais le jeu vidéo reste quand même une activité bien spécifique.
Oui, moi, si j'avais une question, si je voyais une ressemblance entre le jeu vidéo et le sport, c'est la compétition. Comment on voit le sport, qui était d'abord un jeu, est devenu une compétition? Et quand on voit l'évolution de la compétition, le jeu disparaît presque. Hein. C'est la compétition qui compte. Alors, est-ce qu'il y a la même évolution? Parce que, si j'ai bien compris, vous avez parlé de jeu, mais en fait, beaucoup de compétitions sans employer le mot. Alors, est-ce que les jeux vidéo, en devenant compétition même nationale, internationale et tout, c'est en ce sens-là qu'ils ressemblent au sport et à l'évolution du sport. Mais est-ce que ça reste encore un jeu, si ça continue comme ça? Je ne sais pas si vous voyez ma question. Hein. Parce que on s'impose pour le sport, on dit, mais maintenant, les sportifs, la compétition, mais c'est plus un jeu, ça devient... Oui, ils ne s'amusent plus, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de bonheur, il faut gagner, quoi. Alors, est-ce que en jeu vidéo, est-ce que c'est encore un jeu ou est-ce qu'il faut gagner? Donc, mais en même temps, si y a ce besoin de compétition, c'est que c'est fondamental à l'homme. Et que, à partir du moment, on le voit tous, hein, par le moment où on fait du sport, moi, je fais beaucoup de courses à pied, mais après, quand on fait tout seul, c'est pas pareil. Voilà. Quand on se confronte aux autres, ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc, il y a cette évolution-là qui, de passer du jeu à la compétition, qui est quand même quelque chose qui correspond à un besoin qu'on a tous en nous, se confronter aux autres, parce que ça construit plus ou ça ouvre plus d'horizons que simplement de jouer avec quelques amis, puis c'est tout. Voilà. Enfin, c'est pas très clair peut-être ma question, mais c'est que j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je jouerai jamais sûrement, mais donc je suis très intéressé par tout ça. C'est un autre monde que le mien, la seule chose, donc jeu et compétition, comment vous voyez ça?
Vous avez tout à fait raison de dire, c'est pour le sport, c'est pareil. Je prends le foot, on va jouer au foot avec les copains dans la rue, et on finit dans le stade, payer des millions d'euros. Voilà. Donc effectivement, dans les grandes compétitions internationales, avec toute la pression que ça demande, ben, je pense que c'est la même chose. Ce qui se passe dans le sport et ce qui se passe dans les jeux vidéo, c'est bien pour ça qu'on parle d'e-sport, hein. Il y a vraiment cette dimension-là. Il y a un certain nombre de jeux vidéo qui se jouent très bien tout seul. Tous les jeux de construction, voilà, on appelle de crafting, on récolte des ressources, on construit des jeux d'aventure aussi, voilà, avec un scénario, tout ça, voilà. Mais il y a aussi des jeux très compétitifs où vraiment toutes les performances de chaque partie sont enregistrées, notées. Et comme aujourd'hui, le jeu vidéo n'a plus de support technique. Avant, il y avait des disquettes ou des CD, on mettait le CD dans l'appareil et on jouait. Aujourd'hui, on se fait un compte. Donc je me fais un compte, j'ai mon compte, et ce compte va me suivre tout le temps. Et chaque partie sera enregistrée, Toutes mes compétences sont enregistrées, toutes mes performances sont enregistrées, ma manière de jouer. Donc on sait que je joue plutôt comme ceci, plutôt comme cela, plutôt à tel jeu, plutôt qu'à tel autre. On sait aussi que je peux arriver à tel niveau de jeu. Par exemple, quand je suis en forme, les joueurs professionnels, je disais, sont à 300 APM. Moi, ça m'arrive de monter jusqu'à 120, ce qui est déjà pas trop mal pour un amateur comme moi. Voilà. Après, de mon côté, de manière très personnelle, là, je vous réponds, moi, je ne supporte pas la compétition, j'aime pas ça du tout. C'est pour ça que je joue vraiment un amateur. Les tournois, c'est plus le prétexte, voilà, pour aller causer avec les gens et les rencontrer, pour être très honnête. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais de la plongée et de l'apnée, parce que là, au moins, voilà, il y a pas de compétition. Il y a de la progression, mais pas de compétition. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont basés sur la progression personnelle. Voilà. À la rigueur, on est en compétition avec soi-même, on essaie de s'améliorer. Voilà. Mais il n'y a pas forcément besoin de se confronter aux autres. Et ça, c'est juste pour moi. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a cette dimension, je n'ai pas parlé de catharsis, de défoulement, hein. Voilà. Ça fait partie d'être humain. On a tous besoin, à un moment ou à un autre, quand ça va pas trop, de pouvoir se rentrer dans l'art les uns les autres. Ça fait partie de la condition humaine. Et je trouve que c'est bien, et les jeux vidéo, ça reste une manière aussi de défoulement, hein. Aussi un lieu de défoulement, un lieu de catharsis. Voilà, quand je vois les jeunes qui commencent à montrer un peu des dents, à s'asticoter un peu, moi je leur dis, allez, on se retrouve sur les jeux vidéo et vous réglez ça sur le terrain d'un jeu vidéo. Voilà, tout comme on peut régler ça, je sais pas, au foot ou à la danse ou dans les tournois de verbe, je sais pas quoi, voilà. Ça donne un lieu de défoulement supplémentaire. Voilà, ça m'arrive aussi, hein, voilà, après des réunions avec des paroissiens parfois un peu casse-pieds ou pas forcément très cohérents, j'ai besoin aussi de me défouler, ben là je vais prendre un jeu un peu plus défoulant et une petite demi-heure là-dessus et pouf, ça va bien. Ça fait partie, on est tous humains, on est tous comme ça et finalement c'est mieux que de se défouler sur un jeu vidéo que d'enguirlander les pauvres paroissiens qui parfois sont au bout du rouleau et font ce qu'ils peuvent.
Je connais des paroissiens qui sont tellement addicts au pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle que je finis par me poser des questions. Et je pense que quelquefois dans le sport, je vois aussi des gens qui... Voilà, alors où est-ce que tu fais une limite quelque part entre passion, et ça c'est super, et puis addiction?
Voilà, alors effectivement, je dis pour le sport, pour les pèlerinages de Saint-Jacques, effectivement, ça marche aussi, voilà, pour les jeux vidéo. La question de l'addiction, donc là ça revient à ce que je disais, il y a des critères. Il y a des critères qui sont leur... Un ou deux critères, ça ne suffit pas. Hein. Voilà, tous les addictologues le diront, il faut multiplier les critères. Le fait de passer beaucoup de temps, ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut vraiment... là, les critères, je les avais écrits tout à l'heure, vous pourrez revenir sur le PowerPoint. Hein. Je vous enverrai aussi, parce que le texte sur lequel je me suis basé pour mon intervention de ce soir, comme ça, vous le pleurez. J'ai parti exactement la même chose, il y a des choses que j'ai rajoutées, il y a des choses que j'ai pas dites, mais voilà, ça vous donnera quand même un support pour ceux qui veulent le texte. Voilà, donc il y a vraiment un certain nombre de critères très précis pour parler d'addiction. Alors il peut y avoir une passion, ça veut dire un peu le niveau 1, on est passionné, on est amateur, on est passionné, voilà, et puis on peut devenir un petit peu plus on va dire fervent. Pour finir vraiment addict. Donc il y a, je pense, une certaine échelle. Ce sont des choses qui se surveillent avec des critères bien particuliers sur lesquels on peut aussi échanger avec les gens. Hein, il n'y a pas de souci. Et ça permet d'avoir un petit peu... Dans les 10 commandements des jeux vidéo, je donne aussi un élément que je trouve très important qui vient du professeur Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, que j'ai beaucoup travaillé, et qui dit « Ne confondez pas l'évasion du prisonnier et la fuite du déserteur. » Voilà, le prisonnier a besoin de s'évader, voilà, ça c'est bien. Par contre, le déserteur qui fuit, donc la question de la fuite aussi, pour le pèlerinage, pour le sport, pour les jeux vidéo, est-ce que c'est une évasion ou est-ce que c'est une fuite? Je trouve que ça, je dis beaucoup ça aux parents, c'est un très très bon critère de discernement pour voir s'il y a un petit clignotant orange allumé ou pas encore. Voilà, parce que souvent on se crispe, comme on ne connaît pas, on a peur, voilà, mais je dis des fois en fait, il n'y a vraiment aucune raison de se crisper. Donc c'est bien de voir les différents critères. Celui-là qui nous vient du professeur Tolkien, je trouve très pertinent. C'est vraiment un petit outil à avoir en tête. Est-ce que je prends un temps d'évasion après deux funérailles, une réunion de catéchistes et le CP et le conseil économique, voilà, ou est-ce que je cherche à fuir?
Je rebondis sur ce qu'a dit Kevin au départ là, sur le, la pastorale, comment faire la pastorale dans ce monde-là. Moi, j'ai retenu un peu deux choses. La première, c'est que vous disiez, bah, moi, quand je joue avec un jeune, je peux avoir un instrument de dialogue avec lui, où il va dire, bon, sauf que pour jouer avec ce jeune-là, il faut être relativement costaud dans le jeu en question. Et ça, je pense que ça va être réservé à une petite minorité de gens, en tout cas catholiques, convaincus et pratiquants. Enfin, il y a peu de chances que ça, qu'on évite un bataillon de gens ayant ce niveau-là. Et puis, vous avez dit quand même aussi autre chose, ce qui est, au fond, je pense que maintenant, vous savez un petit peu discerner si un jeune, il est en train justement de devenir addict, de commencer à se laisser enfermer là-dedans. Vous avez un peu compris comment il fallait aussi lui laisser le temps de sortir du jeu pour revenir dans la réalité, etc. Et ça, par contre, c'est probablement générique. Alors, je me dis, c'est peut-être plutôt sur cette seconde piste-là qu'il faudrait travailler pour être capable de parler avec des parents qui s'inquiètent pour le gamin, ou je ne sais pas quoi. Enfin, qu'on diffuse une compréhension un peu générale de cette façon de parler avec un enfant qui est passionné par un jeu vidéo, qui paraît un petit peu dérivé, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est probablement pas très lié au jeu, c'est lié au principe même du jeu.
Alors, deux choses. Merci beaucoup, parce que ce que vous dites est très juste. La première chose, de même qu'il n'y a pas besoin d'être un sportif professionnel pour aller jouer au foot avec les gamins dehors, il n'y a pas besoin d'être un joueur confirmé pour aller jouer avec les jeunes aux jeux vidéo. En général, le cerveau d'un adulte a quand même plus de médiation, plus de distance que celui d'un enfant ou d'un jeune. Donc, même un jeu auquel eux auront du mal, les adultes n'auront pas trop de mal pour y jouer. Voilà. Après, il y a aussi des astuces, des ficelles. Voilà. L'idée, c'est pas tant de jouer avec lui que de parler avec lui du jeu. Les parents ou les éducateurs ou ceux qui veulent accompagner les jeunes doivent savoir où sont leurs enfants, où sont leurs jeunes, y compris dans le continent des jeux vidéo. Mais c'est un continent très vaste. Jouer à un jeu de stratégie, jouer à un jeu de bagarre, jouer à un jeu de guerre, jouer à un jeu de construction sont des choses extrêmement différentes. Donc déjà, il faut savoir où est-ce qu'il est. Et là, pareil, il n'y a pas besoin de pratiquer, de connaître bien. Voilà, le simple, si je vous dis déjà un jeu de guerre ou un jeu de construction, désolé, vous comprenez tout de suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement arriver à voir un petit peu où est-ce qu'on est. Alors, il y a des astuces. Moi, je dis, quand un jeune vous parle d'un jeu, alors, si c'est tout le temps le même jeu, là, ça peut être aussi problématique, ça fait partie de l'addiction, souvent, il n'y a qu'un seul jeu. Il y a des jeux qui ont été faits, je pense à Fortnite, pour être addict. Donc ça, c'est aussi à savoir et dire aux jeunes, attention, ça, ce sont vraiment des jeux, ce n'est pas des mauvais jeux, voilà. Mais c'est des jeux qui ont été faits pour accrocher. Donc, si on discute de ça avec un jeune, il n'y a pas de souci, ça, ils comprennent très bien, même si on ne joue pas. Il n'y a pas besoin de jouer pour ça. Donc, dans les astuces aussi, si un jeune parle beaucoup d'un jeu, c'est d'aller voir un peu sur YouTube, par exemple, le gameplay, donc la manière dont on joue. Ça te permet de voir à quoi ressemble le jeu. Là, je discutais avec une maman avant-hier. Ah, mon fils joue beaucoup à ça. Je discutais avec lui. J'y connais rien. Je joue pas. Bon, bah, YouTube. Voilà. Là, vous tapez le nom du jeu, gameplay FR, pour l'avoir en français. Et vous voyez des gens, souvent des jeunes, hein, des très jeunes, qui ont déjà des chaînes YouTube, et puis qui jouent en ligne. Enfin, qui jouent en ligne, mais en s'enregistrant. Et ça permet aux parents de voir à quoi ressemble le jeu sans y jouer. Et donc, ça permet de comprendre, de connaître le jeu, même si on n'y joue pas. Donc, il y a des astuces comme ça qui se mettent en place, mais tout ça, c'est des petits trucs qui se mettent au fur et à mesure. À partir du moment où on s'y met un petit peu, comme je vous disais, c'est du jeu. Il n'y a pas besoin d'un investissement énorme pour tout de suite s'y mettre. Voilà, c'est souvent le premier pas, hein, voilà, c'est sûr. Mais après, le jeu vidéo, c'est comme le vélo, hein. Voilà, je pourrais vous raconter en long, large, en travers comment on fait du vélo, tant que vous ne montez pas dessus, ça sert à rien. Voilà. Donc le jeu vidéo aussi, à un moment, voilà, il faut peut-être trouver, moi je dis aussi beaucoup aux parents ou aux grands-parents, trouver un jeu qui vous convient. Ça vous permet d'avoir un petit pied dedans, et puis après, voilà, d'avoir des échos, voir un peu comment c'est, un peu comment ça fonctionne. Avoir un vocabulaire qui se met un petit peu en place aussi, toute une terminologie un peu spéciale, puis quand vous commencez à parler avec les jeunes, avec ce vocabulaire-là, ils ont des yeux grands comme ça, et puis ça passe tout seul. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça. Mais le monde de jeux vidéo est suffisamment vaste pour que vous trouviez un jeu qui vous convient. Même si vous y jouez qu'une demi-heure par semaine, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'un truc énorme. Voilà, c'est une question c'est d'engagement de culture. C'est aussi une question de culture. Voilà, je pense que ça, c'est après. On voit qu'on baigne dans une culture. Alors, même si on n'est pas dedans vraiment, il y a quand même un petit orteil dans l'eau, vous voyez. On a un peu quelque chose, on n'est pas complètement déconnecté. Et là, sur la crédibilité qu'on peut avoir vis-à-vis des gens aujourd'hui, c'est quelque chose de, sur le plan pastoral, c'est quelque chose d'assez fort. Mais je reste, je le disais au début, hein, le jeu vidéo, c'est une culture, donc il faut s'y intéresser un peu, il faut s'y mettre un peu, écouter. Déjà, rien qu'en regardant, en écoutant, c'est déjà pas mal. Et ça crée des liens. Et puis après, il faut voir où est-ce que ça nous porte. Mais oui, il n'y a pas besoin d'attendre d'être un footballeur de grand niveau pour aller jouer avec les gamins dehors. Hein. C'est pareil pour les jeux vidéo.
Oui, j'ai conscience de ne pas du tout être compétent dans ce domaine des jeux vidéo, de l'e-sport, mais j'ai quelques échos indirects en ayant conscience qu'on parlait tout à l'heure de l'incarnation, l'importance du corps. Et sur un plan à la fois éducatif et sur un plan de la mission, de l'évangélisation, cette dimension, elle est pas petite. Elle renvoie au réel. Et c'est pour ça que, à la fois, j'ai conscience que ce domaine-là, il est incontournable et qu'il faut le creuser, le réfléchir, le mûrir, en prendre toute la mesure, et sans minimiser les aspects auxquels on est déjà confronté. Par exemple, le sport tel qu'on l'entend de manière classique, basique, c'est-à-dire avec les mouvements, on transpire, etc., on court, on s'agite, se confronte aux limites de notre corps. Notre corps nous rappelle à l'ordre et on est fatigué, on n'en peut plus. On est, bon. Dans le cadre de l'e-sport ou de choses comme ça, on peut dire que oui, il va y avoir des degrés, ma tête ne fonctionne plus. Mais j'ai vu combien d'enfants comme ça arriver au patro, par exemple, et avec les yeux pas possibles, parce que pendant je ne sais combien de jours, et voilà, ils sont à 3h du matin sur leur jeu vidéo, hein, non-stop. Donc, et ce n'est pas leur corps qui leur rappelle que. Il faut attendre des degrés catastrophiques, en quelque sorte. Sur le plan pastoral aussi, j'entends bien que je suis le premier à apprécier qu'il y ait des beaux sites internet, qu'on peut faire plein de choses par les réseaux sociaux. Il n'empêche qu'il y a toutes les limites, quoi. L'importance du réel et d'une vraie personne en face de soi pour l'annonce de l'évangile. Voilà. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Mais je souligne ces dimensions parce que je vois un certain nombre de dangers qui nous font déconnecter du réel, nous enfermer un petit peu dans notre univers. Et voilà, avec ces difficultés, souvent je dis ça, combien de temps vous passez face à un écran, combien de temps vous passez face à une personne réelle?
Alors, je vais être un peu provoque, hein, vous m'excuserez, mais
oui.
La réalité virtuelle, c'est une réalité. Ce n'est pas irréel. On ne peut pas mettre d'un côté le réel et de l'autre faire comme si tout ce qui était tout ce monde-là n'était pas réel. Donc, j'invite beaucoup aujourd'hui les gens à se méfier du mot réel et irréel. Comme je le disais, il faut penser le corps avec l'esprit. Et ça, quand on est dans le monde du sport, on le conçoit très bien. Alors c'est vrai, c'est en premier. Voilà. Il y a cette question-là. La question des limites, mais j'en ai parlé justement. Aujourd'hui, c'est très difficile avec la révolution numérique, mais avec tous les changements anthropologiques au niveau des limites du corps qui nous sont proposées par la société actuelle, c'est vraiment une question à se poser. Je ne dis pas que j'ai des réponses. Hein. C'est bien, vous voyez, les limites entre l'homme et la femme qui se gomment, les limites entre l'homme et l'animal, les limites entre l'homme et la machine, et forcément, comment voulez-vous qu'on arrive à témoigner ou à réfléchir à nos limites du corps si toute une génération est baignée dans ce gommage de limites du corps? Ça, c'est ma question, hein. Je n'ai pas de réponse précise, mais cette question des jeux vidéo, cette question de l'e-sport est à replacer dans ce contexte-là. Et c'est là-dessus que là, nous, par contre, au niveau Église, même si on ne joue pas à deux jeux vidéo, on a beaucoup de bagages, on a des choses à faire, on a des choses à dire, on a des travaux sur lesquels on peut avancer là-dessus qui peuvent faire avancer le schmilblick. Mais ça demande, un travail d'équipe, j'ai envie de dire avec des gens qui pensent, des gens qui sont sur le terrain. C'est comme partout, l'Église est un corps, il faut des gens dans le cerveau, il faut des gens dans les mains, il faut des gens dans les yeux, voilà, ça on connaît bien, hein, on connaît Saint Paul, donc c'est un peu le même raisonnement. Mais attention à ne pas trop dissocier le corps et l'esprit, attention avec cette notion de réel, voilà, alors j'entends bien, hein, quand on est un peu pragmatique, moi je préfère utiliser le mot pragmatique, voilà, on veut rester sur un plan très, très concret, très pragmatique, d'accord, mais aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, ou pas ni l'un ni l'autre, hein, ça dépend de notre état d'esprit, aujourd'hui, les choses ont bougé. Et il y a des éléments nouveaux à apprivoiser, y compris en Église. Si on veut justement avoir un terrain d'entente pastorale. Voilà.
Je me permets juste une remarque par rapport à la question du réel et de l'irréel, parce qu'il me semble qu'en fait ça soulève l'élément essentiel pour la question pastorale. Dans le relationnel, être en vérité permet la relation. C'est, me semble, le Christ, il est vrai avec chacun. Et peut-être le danger potentiel dans l'univers, et c'est d'autant plus valable pour les médias sociaux que pour des jeux ou pour les sports, c'est la tentation, j'irai plus loin, jusqu'à dire la tentation de porter un masque ou une sorte d'avatar qui n'est pas vraiment moi. Donc c'est réel, mais sauf que c'est pas vrai. Et donc je me demande juste dans l'approche pastorale, l'essentiel me semble être de rester en vérité. Voilà, c'est...
Ah, ça, c'est... Merci beaucoup, parce que ça, c'est ce que vous êtes là, vous avez tout à fait raison. Il y a le réel et il y a le vrai. Et là, effectivement, est-ce que c'est vrai? Effectivement, je fais mon avatar, voilà. Je suis une petite fillette de 8 ans en jupe rose qui se balade dans les champs fleuris. Vous voyez, moi, vous voyez pas ce qui correspond, hein, je ne ressemble pas du tout à ça. Donc, voilà. Alors évidemment, ça fait rire quand je dis ça comme ça, mais ça fait partie aussi des risques, en particulier quand j'en parle aux jeunes, en disant « attention, vous ne savez pas qui est derrière l'avatar ». Donc ça, c'est aussi important de savoir dans ma liste d'amis, parce que quand je joue, j'ai ma liste d'amis, il y a ceux que j'ai vus, que je connais en vrai, et puis il y a ceux que je n'ai jamais vus, et je ne sais pas qui ils sont, et peut-être certainement que je ne les ai même jamais entendus. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on peut classer nos listes. Et moi, pareil, on a les outils pour ça dans les jeux vidéo, donc c'est bien de le montrer. Dire, tiens, voilà, vous avez votre liste de gens que vous connaissez en vrai, et ceux que vous ne connaissez pas en vrai, limite, vous ne leur parlez pas trop. Enfin, vous ne dites rien sur vous. Donc ça fait partie, effectivement, des dangers, cette question du vrai, hein, qui est vraiment derrière cette image-là. Je rajoute aussi, sur le plan de l'accompagnement, par contre, c'est très intéressant, quand on est avec quelqu'un, de voir comment il se projette. L'avatar est toujours une projection. Alors là, je suis un peu dans le mode psychologique, hein, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que quelqu'un se projette. Comment quelqu'un se voit lui-même ou comment il voudrait être. Et là, c'est aussi une porte ouverte pour l'accompagnement. Dire, tiens, ton avatar, il est comme ça. Hein, ou toi, tu te vois comme ça, ou tu aimerais bien être comme ça. Donc, c'est intéressant. Hein, dis-moi à quoi tu es, je te dirai qui tu es. Voilà, dis-moi comment tu te représentes toi-même, ou comment tu t'imagines, ou comment tu te projettes. Ça dit aussi des choses vraies sur notre être intérieur, sur notre état d'esprit, ou tout ça. Donc il y a aussi là des pistes qui sont intéressantes à creuser, bien sûr en toute connaissance de cause des dangers. Et ça, c'est partout.
Alors du coup, moi je voulais revenir un petit peu sur la pastorale avec l'e-sport. Tout à l'heure, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais on m'avait dit qu'il faut être là où les jeunes sont, en parlant des sports. Et du coup, moi, je trouve que l'e-sport, là, comme on l'a évoqué ici, ça peut être un très bon moyen d'intéresser les jeunes et d'être là où ils sont. Pour ensuite, peut-être, ça ne remplacera pas le vrai, c'est sûr, mais ça peut être un moyen de les attirer et d'ensuite peut-être en discuter en face à face, on va dire, avec eux, et de créer comme ça des liens et de peut-être les amener vers le Christ, etc., derrière, mais en étant déjà là où ils sont avec l'e-sport. Dans les jeux vidéo, même les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est... Enfin, pour moi ça marche très bien en tout cas, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des fois je vois des témoignages, parle du Christ, etc., des gens qui ont vécu des choses, des révélations, et je me dis, bah, derrière j'ai envie d'en discuter de ces trucs-là, mais dans la réalité avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que moi et qui peut m'apporter des choses. Et du coup je me dis que ça peut être vraiment un bon moyen, l'e-sport, le sport, d'être là où les jeunes sont pour apporter quelque chose.
Mais ce que vous dites là marche très bien pour le sport. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend un peu de recul et qu'on prend le tout, on a une complémentarité que je trouve extrêmement intéressante. Avec le sport, on va toucher un certain nombre de jeunes. Avec l'e-sport, on va en toucher d'autres qu'on ne toucherait pas avec le sport. Donc il y a vraiment cette complémentarité que je trouve intéressante. Si je me dis dans une paroisse, ben nous, pastorale des jeunes de Verdun, c'est ce qu'on essaye un petit peu. On propose des camps d'été, il y a toujours un sportif et puis un plutôt culture intellectuelle. Donc moi qui ne suis pas du tout sportif, si je monte sur un vélo, je l'écrabouille. J'organise des camps Harry Potter, Star Wars, tout ça, ça marche très bien. Voilà, où c'est plus des jeux de rôle. Voilà. Alors, c'est pas des jeux vidéo, parce que c'est équipé pour, mais c'est beaucoup plus des jeux de rôle que des jeux vidéo. Voilà, des jeux de société. Il y a aussi un côté, on bouge un peu, hein, voilà. Mais voilà. Et de l'autre côté, il y a des gens toujours de la même équipe, hein, c'est la même crèmerie, qui organisent un camp vélo. Donc aujourd'hui, ça nous permet de toucher un panel de jeunes beaucoup plus grand, parce que ceux qui viennent au camp Harry Potter n'iront pas forcément au camp vélo, et vice-versa. Donc j'en viens à cette idée du travailler notre complémentarité en église. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un atout qu'on a déjà en main. C'est une carte, si je peux me permettre de parler en geek, hein, c'est une carte qu'on peut déjà jouer aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre d'être très bon en ci ou en ça. On peut dire, tiens, on va partir là-dessus avec un certain nombre de jeunes qui auront cette sensibilité-là, et là-dessus avec un certain nombre d'autres jeunes. Alors parfois, c'est déséquilibré, hein, on a plus de monde d'un côté ou de l'autre, mais peu importe, l'essentiel, c'est vraiment d'ouvrir et de montrer qu'on a justement des propositions multiples pour un monde multiple.
Je suis en train de m'interroger, depuis le début, au niveau du virtuel, par rapport à ce qu'on a eu ce matin comme témoignage, dans le sens d'une organisation où les bénévoles sont impliqués. Les bénévoles, c'est important, je pense, aujourd'hui, pour faire une manifestation où les gens sont présents en physique. Qu'est-ce que ça devient dans le virtuel, où vont passer nos bénévoles, par exemple. Le relationnel, pour moi, il existe en réel, c'est-à-dire j'ai une personne en face de moi et je peux parler, je peux converser, je peux échanger, que dans le jeu vidéo, je suis plus réservé. Et enfin la partie conviviale qui existe dans nos manifestations, qu'on peut appeler le pot de l'amitié, l'apéro, etc. Comment on va la faire dans le jeu vidéo? C'est mes interrogations de terrain.
Alors, ça marche exactement de la même manière. Alors, les apéros virtuels, on en fait aussi, hein, même si c'est moins couru. Pendant le Covid, on en faisait, hein, des apéros virtuels, des raclettes virtuelles, tout ça, on en a fait quelques-unes, c'était rigolo. Voilà. Mais, quand je joue à des jeux vidéo, j'ai mon casque, bougez pas, voilà, avec un micro. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mon casque avec le micro, voilà.
Et une antenne comme les martiens.
Et on discute, et c'est pas que un, mais on est toute une équipe. Pour les jeux en équipe, c'est fondamental. Il faut qu'on puisse communiquer. Ce sont des choses qui vont extrêmement vite. Hein. Ce sont des jeux particulièrement assez compétitifs et donc assez nerveux. Et avec un temps de réactivité très très court, en 2 secondes, il se passe énormément de choses. Donc il faut être capable de communiquer. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais ce qui veut dire que la communication marche. Quand on joue à des jeux vidéo, on parle bien sûr du jeu, on parle de la partie, on communique, on réagit. Mais pendant les temps de chargement, ou même dans une phase de jeu peut-être un peu plus cool, on se dit aussi beaucoup de choses. Ça parle, ça discute, ça échange, voilà. Ça m'est déjà arrivé de dire, en pleine partie, les horaires des messes pour le samedi, tiens, demain dimanche, voilà, les horaires des messes et les lieux. Comme j'ai 28 clochers, souvent ils me demandent, tiens, en fait, c'est où la messe demain? Voilà, qui seraient peut-être pas venus à la messe du dimanche s'ils n'avaient pas joué avec moi le samedi. Donc, des petites choses comme ça. Donc, la dimension sociale aujourd'hui dans le jeu vidéo est tout à fait fondamentale. Et elle reste. Alors, elle ne passe pas par un contact pragmatique, concret. Je vous dis, hein, j'ai du mal avec le mot réel, parce que on parle bien de réalité virtuelle. Mais voilà, ça nous est arrivé aussi de boire un coup virtuellement. Par contre, la question du bénévolat, très intéressante, parce que autant on a du mal à trouver des bénévoles dans nos églises, autant quand on organise des conventions, des tournois, là à Verdun tous les ans, il y a la Verdun Joystick Player, Verdun c'est pas une grande ville, hein, c'est 15 000 habitants, hein. Tous les ans il y a une convention de jeux vidéo, aucun problème pour trouver des bénévoles. Hein. Et là oui, par contre, avec les bénévoles, il y a le parking, hein, il y a les brioches, on évite tout ce qui est alcool en général, parce qu'il y a aussi pas mal de mineurs, mais il y a tout ce qu'il faut pour boire et manger dans les coulisses derrière pour les bénévoles, parce que si vous avez vu un tout petit peu les images que je vous ai montrées, imaginez un peu la logistique qu'il y a derrière. Quand on doit installer 100, 120, 130, 150 ordinateurs en ligne, ça ne se fait pas tout seul. Donc là, il y a des bénévoles qui sont là pour ça. Pas de problème. Et les bénévoles, comme tous les bénévoles, ils se retrouvent 2 heures avant et encore 2 heures après, même si ce n'est pas fini d'étranger, ils sont déjà en train de boire un coup et tout ça, et c'est normal. Le côté bénévolat dans tout ce qui est convention, organisation, comme il y a beaucoup de techniques, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a beaucoup et ça fonctionne très bien. Comme dans toute association, en fait. Hein. Je dirais une association de joueurs de jeux vidéo fonctionne exactement comme une association sportive ou nos associations dans nos paroisses. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus.
On est
bien. Ça y est, j'ai assommé tout le monde.
Moi, j'ai mon fils, il fait du e-sport et il a un coach nutrition et un coach musculation parce que pour faire du e-sport, Il faut être bien nourri, et il faut bien être musclé, parce que c'est pas si évident que ça, et le corps n'est pas du tout, écarté du e-sport. Parce que pour faire jitter click, il faut un certain nombre de capacités au niveau de ses mains, de ses bras, il faut être capable de se positionner. C'est des gens qui pensent bien à leur corps, parce que déjà quand on voit les fauteuils qu'ils achètent, ils pensent à la position, donc je suis pas tout à fait d'accord avec le fait, c'est complètement déconnecté du corps.
Merci de rajouter ça, parce que ça rejoint ce que je disais sur l'hygiène de vie des joueurs quand on arrive à un certain niveau qui ressemble à l'hygiène de vie des professionnels. Ça rejoint ce que je disais sur de chair et d'esprit. Hein. L'esprit, enfin le cerveau et le corps, la chair, on ne fait qu'un. Il n'y a pas d'un côté mon côté esprit, spirituel, virtuel et de l'autre côté mon corps. Qui touche le corps touche l'esprit et inversement. Mais c'est vrai que ceux qui font du sport, c'est très très difficile. Ça reste des sportifs professionnels. Depuis, je vais vous dire ça, il y a des lois qui sont passées en France. Je vous retrouve les dates. Voilà, c'est par là. Voilà. En 2015, la France a reconnu le jeu vidéo comme sport olympique. Et en 2016, il y a une reconnaissance en France d'un statut professionnel pour les joueurs de jeux vidéo. Alors, c'est assez récent, évidemment, mais c'est quelque chose qui existe. Qui veut dire qu'il y a des gens qui sont payés pour jouer à des jeux vidéo. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ben, comme un joueur de foot est payé pour jouer au foot, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, il y a, comme vous avez pu en entendre le petit témoignage, une hygiène de vie, un rythme de vie, un niveau sportif extrêmement exigeant, comme pour les sportifs professionnels.
Institutionnel, donc le Comité national olympique est mandaté par le Comité international olympique pour développer le e-sport parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont derrière. Et comme la FSCF est membre du Comité national olympique, si la partie nationale souhaite participer aux nouvelles commissions qui vont aborder le thème du e-sport, peut-être il y a un rôle à jouer dans cet aspect-là. Voilà, parce qu'il y a des enjeux colossaux qui dépassent peut-être l'humain, mais en tout cas le train est en marche. Et donc merci pour votre témoignage et pour ce que vous faites sur Verdun, mais de montrer que tous ces éléments font que on est dans des débats. Est-ce que le e-sport c'est le sport? Est-ce que le sport c'est le e-sport? Ces débats existent et pendant que certaines personnes débattent, il y a des entreprises qui développent des produits tout à fait étonnants. Et donc s'il y en a qui veulent prendre le train en marche, peut-être ça peut nous aider à continuer à échanger ce qui a été abordé ce soir.
Alors je rebondis de ce que vous dites là avec un rêve, je ne vais pas dire une vision, mais un rêve, ou une vision, mais imaginez dans un grand tournoi local ou national de jeux vidéo, une équipe qui débarque en mode kato. Voilà, toutes les équipes ont leur symbole, ont leur couleur et tout ça. Imaginez une équipe qui vient jouer à un jeu vidéo aux couleurs de Jésus-Christ. Gagnant, perdant, peu importe, mais ça peut avoir un impact au niveau du témoignage qui pourrait être assez sympa, je trouve, et qui pourrait aussi changer le regard des gens extérieurs sur l'Église d'aujourd'hui. Ça pourrait aussi beaucoup influer sur la crédibilité qu'on pourrait avoir par rapport aux paroles qu'on souhaite apporter au monde d'aujourd'hui. Sans compter, on l'a dit, toute cette dimension d'accompagnement nécessaire, voilà. Donc c'est quelque chose qui pourrait être... on n'en est pas là, projection. Mais je vous laisse avec cette vision d'une équipe bien... avec au motif chrétien qui vient jouer aussi.
Voilà, alors on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer à discuter encore longtemps parce que c'est... Mais en tous les cas, merci Bertrand pour cette présentation, tous ces échanges qui nous ont permis de vraiment avoir une très belle introduction au e-sport et de laisser aussi des questions qu'on va être amené à travailler parce que je dirais que là aussi au niveau du groupe de travail Église et Sport de la Conférence des évêques de France, c'est un sujet qu'il faut qu'on continue à approfondir et puis on a un interlocuteur compétent donc on pourra faire appel dans l'avenir parce que je pense qu'effectivement il y a un enjeu qui est essentiel de pouvoir être présent à ce niveau-là et effectivement complémentarité sport, e-sport et puis voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour cette soirée et puis bonne continuation et puis à bientôt.